Bonsoir, nous sommes heureux de vous retrouver, l'ouvreuse Louis-Marie Laurent Martin. Bonsoir Laurent.
Bonsoir Louis-Marie, bonsoir à tous. Que des hommes ce soir.
Oh, et quel tablé, dites-moi. En plus, vous avez couru pour venir jusqu'ici, bravant les flots.
Oui, j'ai évité les gouttes, dites donc.
Et vous êtes passé entre les gouttes et vous arrivez donc en pleine forme, prêt à nous conseiller des films à voir depuis son canapé. Combien ce soir?
Oui, parce que vu la météo qui s'annonce dans les jours prochains, il vaut peut-être mieux rester à la maison au chaud. Et j'ai sélectionné 4 films pour passer une bonne soirée de cinéma tranquillement chez soi. Et il y aura un conseil Blu-ray,
encore une chose à regarder sur un grand écran, celui de son salon ou ailleurs, vous pouvez mettre les grands écrans où vous voulez, il n'y a pas de problème. Avec nous également Guillaume Sidom.
Bonsoir Louis-Marie, bonsoir à tous et à toutes.
Son retour de manivelle, notre mécanographe de la mécanique cinématographique. Ça fait beaucoup de graphes tout ça.
Ah, oui.
Faites-nous rêver, Guillaume.
Oula, une splendide fable fantaisiste à la fois dérangeante et humaniste en stop motion à retrouver dans la galaxie Kurosawa avec la Cinémathèque de Toulouse.
Il est avec nous, il nous a posté son petit billet d'humeur. Vous savez que le tribunal des séries est ouvert par Grégory Com, notre homme de loi des séries, qui parle ce soir d'une série à voir sur Paramount+. C'est la saison 4 de Mayor of Kingstown. Et mon petit doigt me dit qu'il a aimé. Je sens qu'il a aimé. Oui, encore une fois, nous n'aurons pas droit à ces coups de crocs ou
bon
c'est
humeur,
et aiguisé. Et ça fait un moment qu'il devient sage. Hein, et...
C'est les résolutions de 2026, mais est-ce que ça va durer?
Nous verrons. Nous, on espère quand même qu'il ressorte ses griffes. Dans le panier de l'ouvreuse également, il y aura l'affiche de la semaine que vous allez scruter avec l'ouvreuse, Laurent Martin, puis il y aura un petit retour en arrière. Vous allez tout comprendre tout à l'heure avec Laurent et l'ouvreuse. Des reprises, il en sera question, on le sait déjà, sur le petit écran, mais sur le grand aussi, parce qu'on a des films à vous conseiller à voir dans un cinéma près de chez vous qui font partie ou pas du patrimoine. Vous verrez quand nous y serons. Et puis, en fin d'émission, il y aura les coups de cœur, parce qu'on a toujours des films, des manifestations et des lieux qu'on a envie que vous alliez voir de notre part. Et puis, il est là, et quel bonheur, je vais arriver à le dire, je suis un peu stressé là, quel bonheur de le retrouver, Franck Lubé, qui officie à la programmation de la Cinémathèque et qui vient nous retrouver ce soir pour parler de la galaxie Kurosawa. Bonsoir Franck.
Bonsoir Louis-Marie, bonsoir tout le monde. Il faut pas vous stresser, on se connaît suffisamment maintenant. Hein.
Oui, c'est vrai. C'est vrai, je suis rassuré maintenant. Dites-nous, Franck, allez, avant de parler de la galaxie Kurosawa, rappelez-nous ce que c'est qu'une galaxie, que vous avez ce concept que vous avez créé pendant que la Cinémathèque a fermé ses portes pour cause de travaux. Mais elles vont bientôt réouvrir les portes, oui.
Oui, on reprendra le 10 avril.
Ah, bonne nouvelle.
10 avril, voilà, je vous donne rendez-vous à la Cinémathèque, voilà, à la maison. Alors, la galaxie, l'idée des galaxies, c'est de prendre 3 films d'un ou d'une cinéaste assez connue et des films plutôt connus. Et pour chacun de ces films, on propose 4 autres films qui n'ont pas été réalisés par eux ou par elles. Et l'idée étant que ce sont des films qui sont en référence, qui sont en écho, et de créer comme ça des sortes de chemins souterrains ou pas du tout, hein, parce que ça peut être aussi extrêmement balisé, mais jouer un petit peu de la cinéphilie, on va dire façon flipper. On va dire que ça, quelque chose comme ça, ce côté ludique qu'on peut avoir avec la cinéphilie, c'est de regarder un film et se dire « Ah ben tiens, mais ça me rappelle peut-être quelque chose, ça peut avoir une influence vraiment directe ou indirecte. » Et voilà, c'est ce jeu-là, quelque part, que l'on propose aux spectateurs et qui est aussi une façon de travailler l'histoire du cinéma sans être trop docte non plus.
C'est ça qui est bien avec la Cinémathèque. On va voir des films pour prendre du plaisir.
Oui.
Alors pour illustrer ce que vous disiez et montrer ce qui peut coïncider entre Kurosawa et les films que vous avez choisis, il y a le meilleur exemple, c'est Rashomon, Kurosawa, et le dernier duel de Ridley Scott.
Absolument.
Que vous programmez tous les deux.
Oui. Ben, Oui, alors Rashomon étant un film.
Alors le sujet est pas tout à fait le même, mais c'est le principe c'est qui le principe, est identique.
Point de vue de trois personnages.
Oui, narration multiple du même événement.
Du même événement, voilà trois personnages qui parlent du même événement et grosso modo qui dit la vérité. C'est ça là, c'est ce qui ressort quoi. Et ce qu'on appelle, on a fini par appeler ça l'effet Rashomon parce qu'on peut le retrouver dans plusieurs films. C'est une façon de mener le récit et c'est aussi une façon de mettre en scène véritablement. Par exemple avec Dernier Duel de Ridley Scott. Qui joue sur la même mécanique. Je trouve que c'est un film au-delà du sujet qu'il traite, qui est un film qui est aussi une leçon de mise en scène de cinéma, puisque chaque point de vue, il va changer. On n'est pas du tout dans les mêmes axes de caméra. La mise en scène joue légèrement. Elle est légèrement différente, mais suffisamment quand même différente pour pas forcément donner des clés sur qui dit vrai ou qui dit faux, mais qui sont davantage des biais de mise en scène qui vont poser peut-être des questions plus politiques, c'est-à-dire la position de la caméra va être une interprétation possible de la position du personnage dans la hiérarchie sociale, on va dire ça comme ça pour aller vite. Donc je trouve que c'est un film aussi qui est assez fascinant sur cette question-là, qui va au-delà en fait de la question de la vérité. Et donc c'est aussi ce qui est intéressant, c'est-à-dire que Ridley Scott est un très très grand cinéaste et il va pas refaire du Kurosawa, c'est pas un remake en fait, de Rashomon, mais en fait c'est l'utilisation de cet effet Rashomon et lui-même apporte finalement sa pierre à ce type de narration.
Oui, et puis dans les deux films, une vie est en jeu par rapport au point de vue, et même dans celui de Ridley Scott, deux vies sont en jeu.
Complètement.
Donc les points de vue différents sont importants et il faut pouvoir juger et apprécier la situation telle qu'elle a été.
Deux films aussi qui se recoupent sur la position des femmes.
Oui.
Parce que c'est deux films aussi, il est question d'agression.
D'agression contre une femme.
Oui.
Justement, on va regarder un film tout de suite, comme on le fait habituellement dans N'oubliez pas l'ouvreuse. Allez, installez-vous, ça commence.
Une seconde. Avant qu'on s'entretue ou qu'on se réduise en charpie comme des fous furieux, on devrait ouvrir le sac d'abord et voir ce qu'il y a dedans. Car si ça se trouve, ça n'en vaut pas la peine.
Je sais pas, qu'est-ce que t'en dis?
Il faut que je réfléchisse. Peut-être.
D'accord.
Un trognon de pommes rances, deux pots de bananes pleines de verre, une galette de riz moisi, un cornichon desséché, des arêtes de sardines, des coquilles d'œufs, un vieux gésier à tatiner, pourri et couvert d'asticots.
Ok, ça vaut la peine. Vous me donnez envie de vomir.
Bleh. Mais alors, c'est un western italien. C'est une drôle d'ambiance que vous nous proposez, Guillaume Sidom.
Ah ouais, drôle d'ambiance pour L'île aux chiens de Wes Anderson, film sorti sur vos écrans en 2018. Musique signée Alexandre Desplat, que vous entendrez à la fin de ma chronique. Fable faussement enfantine, un chef-d'œuvre d'animation signé par le génie du cinéma Wes Anderson. Un film qui, à travers une narration étonnante et un univers visuel unique, nous plonge dans un Japon fictif où les chiens sont donc bannis sur une île dévastée par la peste canine, une œuvre qui mêle aussi poésie, humour et réflexion sociale. Ce qui frappe immédiatement dans L'île aux chiens, c'est son esthétique. Wes Anderson, reconnu pour ses mises en scène symétriques et ses couleurs éclatantes, pousse ici encore plus loin son univers visuel, cette fois-ci avec une animation en stop motion d'une précision presque maniaque. Chaque mouvement, chaque scène semble avoir été minutieusement agencé pour créer une symphonie visuelle. Et si nous y ajoutons la bande-son exceptionnelle, composée donc par Alexandre Desplat avec des morceaux de musique qui captent à la perfection l'essence même du film, nous obtenons une œuvre qui fait appel autant à nos sens qu'à notre intellect.
L'île aux chiens nous raconte comment un petit garçon japonais part en expédition sur une île où tous les chiens sont placés en quarantaine.
Dans l'espoir donc de retrouver le sien, c'est le deuxième film d'animation de Wes Anderson après Fantastic Mr. Fox en 2009. Et là, il ne change pas de technique, le stop motion avec des figurines. Le réalisateur vous plonge ici dans l'univers fantastique de Miyazaki, une ville japonaise qui décide donc d'exterminer la race canine en parquant tous ses chiens sur une île poubelle. Et c'est indispensable. Pourquoi ? Pour la symétrie. Comme dans chaque film du réalisateur, la composition de chaque plan est travaillée donc à l'extrême et va ravir pour longtemps les plus monomaniaques d'entre vous. Vous suivez donc ce jeune orphelin à la recherche de Spot, son chien garde du corps dans un foisonnement créatif et onirique absolument hallucinant. Mais cela n'empêche pas le réalisateur d'être dans une précision chirurgicale, dans des scènes de bagarre, aux scènes de la vie quotidienne. Comme cette préparation d'un bento tellement parfaite qu'elle va laisser tous les cuisiniers du dimanche littéralement béat, bouche bée et fou. Pour sa force politique aussi, évidemment, les chiens parqués dans un endroit où personne ne s'imagine pouvoir survivre vous rappelle ce que la plupart des pays du monde font avec les migrants. Évidemment, la corruption, le populisme, le cynisme, les théories du complot, les fake news, la dictature technologique, tout sonne juste pile poil dans une époque contre laquelle Wes Anderson lutte grâce à la naïveté et la sensibilité donc d'un gamin de 12 ans. Et comme toujours chez Wes Anderson, ce qui est passionnant, c'est cette façon de confronter ce qui reste d'enfant chacun de vous à un monde qui n'a plus vraiment grand-chose de drôle. Vous regardez donc ce film comme vous jouez un jeu de construction géant avec moult parcours, moult mouvements, moult accidents. Et c'est simplement beau. Et puis, bien sûr, il y a le casting vocal. Alors, ce casting, dans la version originale, vous retrouvez des voix de stars comme Bryan Cranston, Edward Norton, Bill Murray ou encore Scarlett Johansson, excusez du peu. Chacun donne vie à son personnage avec une touche d'humour et de tendresse qui rend ses chiens presque humains. Mais attention, hein, loin de l'image du chien mignon et inoffensif, ces personnages sont des êtres complexes avec des émotions, des peurs et une dignité qui émeut profondément. Et puis, dans la version française, cette fois, il y a la voix d'Isabelle Huppert qui est un peu beaucoup la cerise sur le maquis. L'île aux chiens n'est pas simplement un film d'animation, c'est un voyage émotionnel et esthétique. C'est une œuvre qui nous rappelle donc que derrière chaque histoire se cache un message de résilience, d'espoir et de lutte pour l'égalité. Un poème visuel sur la loyauté, l'amitié et la place de l'autre dans notre monde. À retrouver donc ce mardi 17 février 19h30 au Pâté Wilson de Toulouse, séance de rattrapage le jeudi 5 mars, toujours à 19h30 dans le cadre de la galaxie Kurosawa, visible elle jusqu'au 15 mars prochain en partenariat donc avec l'ouvreuse Radio Présence et la Cinémathèque de Toulouse. Gagnez vos places pour deux personnes en nous envoyant vos noms et prénoms à cinéma@radioprésence.com et retrouvez toute la programmation sur la Cinémathèque de Toulouse.com, également en Blu-ray et DVD chez Century Fox Vidéo. Et d'ici là, ouvrez l'œil et le bon, et surtout, allez au cinéma.
Guillaume, vous l'a rappelé, c'est Alexandre Desplat qui a composé la partition du film de Wes Anderson, L'île aux chiens.
N'oubliez pas l'ouvreuse sur Radio Présence.
C'est John Ottman qui a composé cette musique-là pour un film où, alors là, il est question de faux semblants d'intrigue, de tromperie majeure que vous proposez, Franck Lubé.
Oui, pardon.
C'est Usual Suspects de Bryan Singer. Alors là, oui. Si on est mené par le bout du nez du début à la fin du film, ouais. C'est bien, ouais. C'est bien dans cette histoire-là parce que, alors là, on est complètement perdu, égaré. Et ces pauvres mecs,
suspects pauvres habituels, types,
ces ouais. suspects, ouais. ceux qui ont fait le casse, on s'en vient à les aimer, à pas comprendre ce qui leur arrive.
Ah, mais c'est un film, je pense qu'aujourd'hui, on peut vraiment parler de film culte, hein, pour Usual Suspect, hein. Ce qui est, je trouve que là où le film est vraiment formidable, disons, pour ceux qui ne l'ont pas vu, on dira pas.
Oui.
Mais même pour ceux qui l'ont vu, c'est un film à twist et c'est un film qui se revoit. Ce qui est difficile pour
démonter la mécanique du truc et savoir qui est ce fameux Kaiser Soze.
Ouais, voilà.
On peut le revoir.
Ouais. Mais tu vois, par rapport à des films comme, je pense à Le Sixième Sens de Shyamalan. Et qui est un film pareil qui nous mène comme oui. ça au bout du nez, puis par le bout du nez, puis on a à la fin, bon voilà, il y a une révélation, et puis boum, ça change tout, et qui est pas, enfin qui est peut-être un film qui fonctionne sur le fait de ne pas savoir. Quand on sait, est-ce que c'est un film qu'on va revoir? Je le suspecte, c'est un film qui se revoit tellement il est dans la dans la maîtrise, finalement, de cet effet Rashomon, hein, encore oui. une fois, puisqu'on est
au bout de ce côté-là. Quoi. Il est labyrinthique, surtout. On se demande où on va, où ils vont. On ne comprend pas.
Bah, on peut dire qu'il nous balade.
Oui, c'est le moins qu'on puisse dire.
C'est clair.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Oui, ça fonctionne toujours. Des fois, parfois, je me surprends comme ça à me dire. Bon, il y a beaucoup de films qu'on revoit avec plaisir, et celui-là est un qui fonctionne et même qui est toute génération. Je veux dire, notre génération, on l'a vu au cinéma à l'époque, au moment de sa sortie. Les jeunes générations, c'est un film aussi dont ils ont entendu parler et qu'ils vont aller voir. Enfin, en tout cas, je vous invite à aller le voir. Si vous connaissez pas le film, ouais. Mais je pense que tout le monde quand même a entendu parler.
Quand on est cinéphile, oui, je pense. Oui.
Et puis avec ce plan final quand même qui est génial.
Ah oui.
Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont génialissimes.
Mais ce travelling.
Dans le corps, le travail sur le corps, etc.
Ce travelling, on descend cette rue ouais. et petit à petit.
N'en dis pas trop.
Non, n'en dis pas trop. Cette façon.
Ne spoilez pas, comme dit Grégory.
Cette façon de suivre le personnage, la caméra suit le personnage et petit à petit change et la vision va devenir fluide. Comme à ce moment-là, la lumière s'allume dans l'esprit du spectateur. Ça y est, mais il est trop tard.
Ouais,
il est trop tard. Comme le flic d'ailleurs, il est trop tard.
Oui, c'est vrai.
Mais c'est un vrai film de manipulation.
Ah, bah, c'est le moins qu'on puisse dire.
Par rapport aux deux Rashomon ou Le Dernier Duel dont on parlait tout à l'heure, qui sont des films qui sur ce type de narration cherchent pas à faire les malins. C'est du coup, il nous donne des témoignages quelque part. Là, le film dans sa construction est un film de manipulation. Alors, le témoignage peut être aussi une histoire de manipulation, bien sûr, et le cinéma n'est qu'une histoire de manipulation toujours. Mais il y a quelque chose, on est peut-être à un autre niveau, c'est-à-dire de maîtrise du langage cinématographique pour jouer avec le spectateur. Quelque part, là où Ridley Scott joue avec les codes du cinéma dans le Dernier Duel, pour rester dans les films satellites, Bryan Singer il a plus ce côté un petit peu je joue avec le spectateur, mais c'est agréable aussi d'être le parfois le jouet de cinéaste. Ça fait partie du plaisir cinématographique aussi.
Oui, de se faire trimballer tout à fait.
Ben complètement. Ouais.
On va regarder ce qui se passe sur l'affiche de la semaine avec vous, Laurent Martin, et avec l'ouvreuse, bien sûr.
Mais avant de commencer, on va faire un petit retour en arrière avec Clément, un auditeur qui est parmi nous et qui va nous parler de N121, Bus de nuit, le premier film de Mourad Hassaoui. Alors Clément, de quoi parle ce film et l'avez-vous aimé ?
Alors il s'agit de l'histoire de Oscar, Simon et Aïssa, trois amis d'enfance qui vont à Paris pour fêter une bonne nouvelle, mais dans le bus de nuit qui les ramène chez eux, le N121, donc qui est l'élément central du film, hein, puisqu'il y a presque un huis clos à bord du bus, plus d'une heure de film dans le bus. Et donc, c'est un échange entre passagers qui dégénère et la situation dérape. Donc, quelques petites anecdotes donc, sur les bus qui ont servi au tournage, puisqu'il n'y en a pas un, mais deux. Deux Irisbus Itélis 12 de 2009 qui ont roulé pendant 17 ans sur le réseau de bus d'Avignon. Et donc, ils ont été achetés par la production, réaménagé complètement pour le film, et ce sont des conducteurs de l'association de sauvegarde du patrimoine des transports parisiens qui ont conduit dans le cadre du tournage. Et donc, pour ce qui est du film, personnellement, je trouve qu'il y a quelques incohérences, quelques discours sociaux assez classiques et déjà vus, mais on peut saluer quand même la prestation pour un premier film.
Tout à fait, oui, c'est ce que j'allais dire, un premier film qui a toujours parfois des défauts, même souvent, bon, c'est normal. Donc au final, vous conseillez le film aux auditeurs pour ceux qui aiment les bus, parce que j'ai bien compris que
voilà.
Vous aimez les bus apparemment.
Pour ceux qui aiment les bus, c'est très précis, très précis, hein. Très précis au niveau des bus. Il y a du boulot.
Ou si vous aimez les prises d'otages, c'est moins rigolo. Mais... Allez, je tenais quand même à ce film, voilà, c'est un premier film.
Rappelez le titre et le réalisateur dont c'est le premier film.
C'est N121, donc ça c'est le numéro de la ligne, j'imagine.
Hein, c'est ça.
Bus de nuit. Le premier film de Mourad Hassaoui. À l'affiche cette semaine, on peut voir Les Dimanches, un film espagnol de Aurora Ruiz de Azúa. C'est l'histoire d'Einara, 17 ans, élève dans un lycée catholique qui s'apprête à passer son bac et à choisir son futur parcours universitaire. Hein. Je ne sais pas s'ils ont Parcoursup là-bas, mais c'est toujours la galère. À la surprise générale, cette brillante jeune fille annonce à sa famille qu'elle souhaite participer à une période d'intégration dans un couvent afin d'embrasser la vie de religieuse. La nouvelle prend un peu tout le monde au dépourvu. Ensuite, le père semble se laisser convaincre par les aspirations de sa fille pour Maïté, la tante d'Einara. Cette vocation inattendue est la manifestation d'un mal plus profond. Einara, c'est une jeune fille de 17 ans, aux grands yeux sombres, les joues rondes, une voix d'ange qu'elle exerce sur les bancs de la chorale du lycée et avec un air mélancolique, en reprenant d'ailleurs une chanson de Nick Cave. Elle a aussi cette foi en Dieu, en l'église catholique, qui l'anime autant qu'elle l'interroge, donc au point de lui inspirer une carrière de religieuse, donc d'en déplaise à son père, incarné par Miguel Garcés, qui est veuf, dépassé un peu par cette crise d'ado peu ordinaire, ou à sa tante, qui elle est farouchement athée et portée par une Patricia López Arnaiz, dont la fièvre sceptique éclipse parfois la jeune Blanca Soroa, car c'est bien sûr sur elle, sur la candeur sincère qui se dégage de ses traits juvéniles, que repose cette réflexion contemplative presque métaphysique. Alors l'intérêt de ce film tient surtout à sa mise à jour rafraîchissante d'un marronnier cinématographique, raconter les prémices de la vocation chez une adolescente d'aujourd'hui, produit d'une société occidentale où le doute a pris le pas sur le dogme et la croyance. Et si la réalisatrice espagnole Aurora Ruiz de Azúa donc réussit à éviter les écueils d'un tel exercice, sans parvenir toutefois à s'épargner quelques longueurs, c'est qu'avec Les Dimanches, elle ouvre surtout un nouveau chapitre de son étude de la féminité, commencé avec son premier long métrage Lullaby en 2022 et prolongé dans sa série Kerrer en 2024. Donc, entre initiation au mystère de la foi et pulsion adolescente, la notion de corps prend le pas sur celle de la foi et parfois inversement. Donc que l'on soit croyant ou non, on ressort plutôt, on ressort indéniablement de la séance profondément bousculé par ce film espagnol qui a un très gros succès outre-Pyrénées. Petite revue de presse sur ce film, un sujet original, traité avec force et délicatesse selon le Figaro. Le JDD a bien aimé aussi une remarquable intelligence, un film troublant et émouvant, un film profond et subtil pour Sud-Ouest, petit bémol pour Libération, le film d'apprentissage, phénomène total en Espagne, fin de s'intéresser à la foi d'une adolescente voulant rentrer dans les ordres, mais se révèle une critique réac de sa famille libérale et progressiste. À l'affiche aussi cette semaine, on peut voir LOL 2.0 de Lisa Azuelos avec la délicieuse Sophie Marceau et Vincent Elbaz. On peut voir Les Enfants de la Résistance à partir de 8 ans, le film de Christophe Baratti, rappelez-vous, c'était le réalisateur des Choristes. On peut voir L'Infiltré d'Ahmed Silla. On peut voir Les Immortels de Caroline Deruas à l'American Cosmograph. On peut voir Aucun autre choix de Park Chan-wook au Vieux Muret. C'est inspiré du livre du polar Le Couperet de Donald Wesley, qui avait déjà été adapté par Costa Gavras avec José Garcia, l'histoire de cet homme qui cherche du boulot et qui tue tous ses rivaux. On peut voir aussi Hurlevent d'Emerald Fennel au CGR Le Paris-Montauban. Alors Guillaume, vous n'avez pas rencontré Émilie Brontë, hein, qui nous a quittés depuis longtemps, mais vous avez vu ce film, je pense que vous l'avez bien aimé.
Bah, pas trop, justement. J'ai vu le
vous
film.
Vous donnez des fausses infos, bro.
En avant-première hier soir. Non, un film bourré de signes incohérents. À un moment donné, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on regarde avec un décor de studio à l'artificialité outrée. Au final, c'est assez déprimant. Une esthétique de publicité sophistiquée.
Ah oui, vous n'avez pas du tout aimé, alors.
Pas du tout.
D'accord.
Pas du tout.
Vous m'avez donné de bonnes infos. Oh, j'ai mal entendu, peut-être.
Oui, voilà.
Pourtant, on la prépare, l'émission.
Oui. Je suis témoin.
C'est pas grave. Non, comme dit Grégory, ne perdez pas votre temps, n'allez pas voir ce film.
Exactement. Ouais. Malgré Margot Robbie.
Et oui. Par contre, on peut perdre son temps devant Les Voyages de Teresa, de Gabriel Mascaro.
À la salle, j'en suis persuadé.
Ça, vous l'avez bien aimé, celui-là. Vous n'arrêtez pas de m'en parler, d'ailleurs. D'ailleurs, il a eu l'Ours d'Argent, hein, donc, au Festival de Berlin.
De Berlin.
Un petit mot sur ce film, un film brésilien de Gabriel Mascaro. C'est l'histoire de Teresa qui a vécu toute sa vie dans une petite ville industrielle de l'Amazonie. Et le jour venu, elle reçoit l'ordre officiel du gouvernement de s'installer dans une colonie isolée pour personnes âgées, où elles sont amenées à profiter, entre guillemets, de leurs dernières années. Mais Teresa refuse ce destin imposé et décide de partir seule à l'aventure, découvrir son pays et accomplir son rêve secret. Voilà. Un film sur le troisième âge, voire même sur le quatrième âge. Et une ode à la vie. Et peut-être même aussi à la survie.
Oui. Alors,
un petit mot, dites-moi. Vous l'avez aimé,
mais... J'ai adoré ce film. Et je viens de le trouver. Je l'ai lu quand même. C'est difficile de s'approprier quelque chose. Mais c'est un road movie sur l'eau. Autrement dit, un river movie.
Ah, c'est joli, ça.
Voilà. Ouais,
ça, c'est bien dit.
C'est River Movie.
Trêve de plaisanterie, Les Voyages de Teresa. Il y a surtout cet interprète, Denise Wenberg, qui est extraordinaire. Mmh. Et Les Voyages de Teresa. Alors, il faut, vous l'avez pas signalé, mais ça se passe dans un Brésil dystopique, quand même. Hein.
C'est le futur. Oui, on est en science-fiction.
C'est le futur. Il y a un petit brin de fantastique parce que ça fait penser à certains films et certains romans de science-fiction où on se débarrassait des vieux.
Oui, Soleil Vert, par exemple.
Et voilà. Et donc, ici, c'est la même chose, sauf que là, elle refuse cet état. Et puis, ce qui est fort, c'est que c'est le portrait donc de cette héroïne âgée, et c'est raconté, le parcours est raconté principalement par l'image, et c'est justement cette expérience visuelle immersive qui permet toute l'interprétation et qui est centrée sur le désir, le rêve et la liberté. Ça marche, on est avec Teresa.
À l'affiche aussi cette semaine, on se fera peur avec Send Help, film d'horreur de Sam Raimi. On peut voir aussi Soulèvement au pluriel, un documentaire de Thomas Lacoste au Grand Palais à Cahors. Un autre documentaire, It's Never Over, Jeff Buckley, le regretté Jeff Buckley. Un documentaire d'Ami Berg qu'on peut voir à l'American Cosmograph, une séance par semaine le vendredi. Et puis pour les tout petits, Goat, rêver plus haut à partir de 6 ans, le film de Thierry Delahaye et Adam Rosette.
Like this, the the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew you. And she tied you to her kitchen chair, and she broke your throne, and she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah, hallelujah.
La fameuse chanson Alléluia de Cohen est magnifiquement reprise par Jeff Buckley, un monument même, je crois qu'elle est encore plus belle que sa version à lui.
C'est ce que j'allais dire, c'est rare qu'une reprise soit encore plus belle que l'original, et je crois que là c'est le cas.
Et c'est fabuleux, ça fait toujours le même effet. Rendez-vous compte que cet album sorti en 94, c'est l'album majeur de Jeff Buckley, c'est majeur d'autant plus que c'est le seul. Oui, puisque trois ans plus tard, il disparaissait tragiquement. Alors, il y a d'autres albums qui sont sortis après son décès, géré par sa maman, parce qu'il y avait eu quelques enregistrements.
Il y a le fils de Tim Buckley qui était aussi.
Oui, qui est aussi.
Qui est mort tragiquement.
Il est mort d'une overdose, lui. Ouais. Alors, vraiment, lui, c'est l'accident bête par excellence.
Il s'est noyé, je crois.
Il était au bord du Mississippi. Et il avait chaud, il attendait ses musiciens, il devait se produire en concert, et il était avec un copain, et il a décidé de se baigner dans le Mississippi, il y a plongé tout habillé. Il est rentré tout habillé, et passé un bateau à roue à aube à ce moment-là. On imagine que les remous provoqués par le bateau lui ont pas permis de remonter, et il n'est jamais remonté. On a retrouvé son corps que 6 jours plus tard. À voir ce documentaire pour se rendre compte qu'il était un fabuleux chanteur, un très grand poète et un incroyable showman. Mais ce qui est fort justement dans le film, c'est pas un récit de disparition, mais c'est plutôt une célébration de ce qui demeure justement, cette voix et puis l'émotion et l'empreinte durable que Jeff Buckley a laissée.
Et du coup, c'est un film qui est fait avec, il y a des images d'archives.
Voilà, exactement. C'est un film documentaire. C'est Amy Berg, une spécialiste du genre qui.
Donc, ça veut dire qu'il y avait des éléments.
Ah oui, il y avait de quoi faire, et puis il y a des témoignages aussi. Okay. Et le film est peut-être un peu long. Il accroche 1h50 pour un documentaire. Ça fait un peu long. Il y a quelques témoignages dont elle aurait pu se dispenser. Néanmoins, ça fonctionne.
Mais du coup, vous diriez que c'est un film de naissance? Parce que en fait, c'est la naissance de Jeff Buckley, l'artiste. Comment il arrive?
C'est tout à la fois pour montrer ce qu'il était en fait, et qu'il était en fait aussi fragile.
Oui, oui,
bien sûr. Et sa disparition est un peu à l'image de ce qu'il a été.
Ça rajoute au mythe, hein,
ouais,
toujours.
Exactement.
Ouais. Il est mort très jeune. Il avait 27 ans ou il fait
non,
partie du club?
Non. Il est mort.
Je me souviens pas.
29 ans. Il était dans sa 30e année.
Ok. Ouais. Bah, il est singulier. Voilà. Il est son club à lui tout seul.
Ouais, exactement. Alors, le titre du film, c'est It's Never Over, Jeff Buckley. Littéralement, ce n'est jamais fini.
Jamais fini.
Hein. Jeff Buckley. Allez, encore. Alléluia un petit peu. Hein.
Bah oui.
Alléluia. 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 Alléluia.
Alors j'ai reçu un message d'un auditeur qui m'a dit, j'avais dit que Cohen, mais c'est Leonard Cohen, hein, j'avais pas donné le prénom. Et pour la petite histoire, en fait, la version que chante Jeff Buckley, Alléluia, c'est une version qui a été remaniée par John Cale. Pourquoi ? Parce que il est arrivé un moment, un groupe d'artistes a voulu faire un disque hommage. A tribute to, comme aiment bien les faire, les Américains du Nord, et tribute to Leonard Cohen. Et John Cale voulait reprendre Alléluia. C'est ce qu'il a fait dans ce disque, d'ailleurs, mais il voulait faire quelques petites retouches à la chanson, au titre. Et il a demandé, bien sûr, l'autorisation à Leonard Cohen, qui a accepté. Et ce que chante Jeff Buckley, c'est cette version, c'est celle de John Cale, c'est pas tout à fait celle de Leonard Cohen, ce qui ajoute encore un peu à cette aura, à ce mystère, à ce titre. Et sans transition aucune, le tribunal des séries, avec notre homme de loi des séries, qui parle ce soir de Mayor of Kingston.
Je déclare l'audience ouverte.
Cher Louis Maris, je vais vous parler aujourd'hui d'une série télé que j'affectionne particulièrement, qui est sur Paramount Plus, et qui vient d'un producteur et réalisateur que j'aime énormément, qui est Taylor Sheridan. Vous savez, Taylor Sheridan, c'est le scénariste incroyable de Sicario, le scénariste de Comancheria, le réalisateur de Wind River, et encore beaucoup d'autres, des films formidables. Mais il a aussi fait des séries extraordinaires, comme Yellowstone, comme Tulsa King, et Mayor of Kingston, la série dont je vais vous parler aujourd'hui. C'est quelqu'un qui n'hésite pas à faire des séries qui abordent des thèmes très durs aux États-Unis, où la violence est omniprésente, mais jamais gratuite, et qui va vraiment explorer de façon cash les méandres de l'âme humaine. Mayor of Kingston, c'est une série, aujourd'hui 4 saisons, il y en aura 5, elle se terminera à la 5e saison, qui analyse, et je vais être sans trop de spoilers, parce que ceux qui n'ont pas vu les autres saisons, j'ai envie que vous puissiez découvrir cette œuvre magnifique. Donc Mayor of Kingston, de base, le pitch, c'est Jeremy Renner, donc notre fameux Hawkeye dans Avenger, mais qui là a un rôle magistral de noirceur, et le maire officieux de la ville de Kingston. La ville de Kingston, c'est une ville sinistrée, américaine, sinistrée économiquement parlant et socialement parlant, et qui ne vit en fait que sur 3 pôles financiers, la police, la prison et la pègre. Et le maire officieux de Kingston, dont joué par Jeremy Renner, est en fait une sorte de consultant qui fait le lien entre ces 3 entités pour que les choses ne se terminent pas en bain de sang. Donc déjà, le pitch est assez sombre, c'est désespéré. Tout le monde sait que la ville ne se sortira pas de cette situation et qu'en fait, tout le monde est dans une sorte de purgatoire où il faut survivre comme on peut. Il n'y a pas d'échappatoire. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est filmé comme ça, c'est-à-dire que la ville, elle est petite, mais à la fois tentaculaire. On voit que les gens n'arrivent pas à s'en échapper, parce qu'on se dit, mais la ville, en plus, elle est moche, il pleut tout le temps, on se dit, mais pourquoi ils partent pas, ces gens-là? Et en fait, ils sont comme prisonniers de leurs engagements. C'est là où je rejoins un petit peu, j'ai fait un parallèle avec Le Parrain. Alors, on voit bien que Jeremy Renner, c'est comme dans Le Parrain, c'est-à-dire qu'il sait que ce qu'il fait est mal, mais on vient toujours le chercher pour ça, il y a toujours des nouveautés qui arrivent, des choses horribles, et donc il ne peut pas se sortir de cette situation. Il est prisonnier, c'est un homme de pouvoir, de grand pouvoir, mais prisonnier de son pouvoir. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les 3 premières saisons, et je ne vais pas spoiler, il y avait un arc scénaristique précis. La montée en puissance de Jeremy Renner, l'affrontement d'un antagoniste très charismatique, et la fin de la saison 3 marquait vraiment la fin de cet arc. Et on pouvait se demander, mais pourquoi encore 2 autres saisons pour conclure, sachant qu'il y avait quelques portes ouvertes, mais on était quasiment dans une sorte de conclusion. Et en fait, souvent, les séries, c'est là où elles se loupent. C'est-à-dire que quand elles terminent ce qu'elles ont leur propos, elles n'arrivent pas à repartir, et en fait, c'est du remplissage. Et en fait, non, elle n'avait pas terminé son propos. Elle voulait conclure proprement cette partie-là. Et même si on a un nouvel antagoniste qui arrive, même si on a des nouveaux personnages ambigus qui arrivent en saison 4, on est dans la continuité de, à la fois de l'analyse de cette ville et de la chute de Jeremy Renner dans les méandres de sa folie et de son pouvoir. Et elle aborde un autre sujet qui est très intéressant, qui était un peu teasé dans les premières saisons, qui est quand on a un personnage qui est bon, et il y en a un qui est particulièrement bon, qui est honnête, peut-il survivre à une ville pareille ? Ne finit-il pas par soit souffrir ou être corrompu par son environnement ? Et c'est, ça va être tout l'enjeu de la saison 4 et de la saison 5. Et donc, c'est là où cette série, elle est bien faite. C'est qu'on voit qu'il y avait un plan. Parce que moi, j'ai eu un petit peu peur, parce que Taylor Sheridan, qui fait vivre Paramount+, qui fait quasiment toutes ces séries, on a appris qu'il allait quitter Paramount+ dans 2 ans. Certes, certaines séries allaient rester sur la plateforme, mais il allait en conclure certaines, dont Mayor of Kingston. Et là, on voit qu'il avait vraiment préparé les choses et qu'on va sur la fin du récit. C'est agréable. Vous savez à quel point je m'énerve sur les séries télé qui ne savent pas conclure ou qui font une conclusion de façon abrupte parce qu'ils se rendent compte qu'ils vont être annulés parce qu'ils sont plus à leur prime. C'est pas le cas ici. Donc, c'est pour ça que je vais vous conseiller Mayor of Kingston. C'est pour ça que j'ai pas voulu vous spoiler les 3 premières saisons, que je vous ai parlé de la saison 4 de façon un peu évasive, parce que je pense qu'elle mérite d'être vue, cette série. C'est peut-être pour moi la meilleure production qui a été faite par Taylor Sheridan. Donc, chers auditeurs, chères auditrices, votre temps est précieux et vous pouvez le dépenser devant Mayor of Kingston. Ce ne sera pas du temps perdu. Je vous remercie.
Le mieux, c'est de suivre les conseils de notre homme de loi des séries, Grégory Combe. Vous ne perdrez pas votre temps avec Mayor of Kingston, saison 4, mais les autres saisons aussi.
James Bond. Et vous êtes sur Présence. Radio Présence.
C'est la musique d'un film qui a fait couler beaucoup d'encre parce qu'il a plu et déplu. Pour les mêmes raisons, ce film, c'est Babylone de Damien Chazelle. Ah, oui. Vous savez, Babylone raconte la réussite et le déclin de 6 personnages, principalement dans l'industrie cinématographique, lors de la transition entre le muet et le parlant. Et ça se passe à la fin des années 20. Et on voit le bouleversement qui arrive et ce qu'il arrive à ces vedettes qui sont broyées ou pas, comment ils arrivent à s'en sortir. Et c'est complètement dantesque. Ne serait-ce que par la première scène, quand on monte cette fameuse côte Beverly Hills, c'est qu'une côte, c'est qu'une montagne, il n'y a rien. En haut, il y a une maison, un qui s'est déjà installé là-haut où on fait des fêtes. Et il y a un mec qui amène un éléphant dans un camion qui n'arrive pas à monter. Et il va falloir pousser le camion. Mais bon, je vous en dis pas plus. Vous irez voir Babylone. Babylone, moi, ça m'avait emporté. Margot Robbie, Brad Pitt, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Babylone, Damien Chazelle, c'est au Pathé Wilson, lundi 16 février à 20h, dans sa version originale. Si on reste au Pathé Wilson, on ira voir Twilight chapitre 3, ils sont en train de tous les faire un par semaine. Hésitation, c'est le titre du chapitre 3, toujours les mêmes personnages, et c'est demain, jeudi 12 février à 19h45 en VO, ou bien dimanche 15 février à 11h15, et oui, le film fait encore courir les foules, puisqu'à chaque fois les séances sont complètes. Et Soderbergh, il est chez Wilson et chez la Belge. Chez Wilson avec Magic Mike, l'histoire de ce stripteaseur incarné par Channing Tatum. Le film avec Matthew McConaughey, qui est le patron de la boîte dans laquelle il bosse. On peut le voir au Wilson lundi 16 février en VO à 20h. Et puis sinon, on ira voir un autre film de Soderbergh à la Belge, c'est Erin Brockovich. Seul contre tous. Ouais. Alors, ça avait cartonné ouais. en 2000. Julia Roberts, il y a eu Pretty Woman, il y a eu Erin Brockovich. Elle a été propulsée au firmament des stars, rien qu'avec ses films. Faut dire que celui-là est particulièrement réussi. Ça fonctionne diablement bien. Et puis, elle est bien entourée. Albert Finet, Aaron Eckhart. Ça marche. Et on suit ça avec plaisir. Et puis, alors, lui aussi, je parlais de films culte pour une certaine génération, Twilight, à l'instant, eh ben, il y a Roméo plus Juliette, film de Baz Luhrmann, qui clôt la trilogie. Alors, il avait appelé ça, la trilogie du rideau rouge, puisqu'il y avait Ballroom Dancing, Moulin Rouge et Roméo et Juliette, transposé dans un quartier populaire d'une grande ville américaine. Mais il a gardé exactement les vers de Shakespeare. Et le film a propulsé Leonardo DiCaprio et Claire Danes. Là vraiment, ouais. Léo est devenu un...
C'était Léo de Hurlevent. Là.
Exactement, plus fort que ces Hurlevents-là, ceux dont nous parlait tout à l'heure, et Guillaume Sidom. Dernière chose, un film que j'aime beaucoup, qui passe à Rodez, de 1947, de Joseph Mankiewicz, L'aventure de Madame Muir, une histoire de fantôme, avec Jane Tierney. Et Rex Harrison qui fait le fantôme.
Oh, allez le voir absolument, c'est génial.
En plus, Rex a du chien. Donc,
c'est extraordinaire. C'est fabuleux. Non, c'est un monument. Alors là, il faudra aller jusqu'à Rodez.
C'est un film d'amour surréaliste.
C'est un film d'amour surréaliste et qui finit bien. Puisque les amoureux partent ensemble à la fin.
Bravo, vous avez raconté la fin.
Mais non, mais de toute façon, on le sent et on le voit d'une façon extraordinaire. Et alors, ce que j'aime, c'est cette programmation au CGR de Rodez s'appelle Plan Culte.
Ça,
j'adore ça. Et L'aventure de Madame Muir, c'est mardi 17 février à 20h15 et bien sûr en version originale. Et puis on finira notre tour d'horizon avec Le Véau Muré, dimanche 15 février 18h20, The Celluloid Closet, un film de Rob Epstein et Jeffrey Friedman. C'est un film...
Ah, vous inversez les deux, ça fait Jeffrey Epstein.
Non. Mais je me trompe pas. The Celluloid Closet, c'est un film documentaire qui est des montages avec des témoignages et des morceaux de films qui évoquent l'homosexualité dans le cinéma américain, ou au contraire essayer de taire. Vous voyez, où on l'évoque, où on la tait, voilà, c'est ce qui est montré dans ce film. Et alors, Celluloid Closet, vous savez que le closet, c'est le placard. Le celluloïde, celluloïde, c'est la pellicule. Être coincé dans le placard ou en sortir. Voilà, c'est ce que montre Celluloid Closet. VO de Muret, et en VO, dimanche 15 février à 18h20. Voilà, Laurent, c'est à vous.
Le cinéma à la télévision, ça commence dès ce soir sur Arte à 21h avec Les Jeunes Amants de Karine Tardieu avec Fanny Ardant et Melvin Poupeau. Dans un hôpital lyonnais en 2006, le destin s'écrit en quelques regards. Pierre, jeune médecin de garde, croise la route de Shona, une femme énigmatique venue soutenir son amie malade. Un drame amoureux d'une grande justesse et d'une belle sensibilité. Jeudi, France 4, 21h, Va, vie et devient de Radou Meherlanou avec Roche Dizem. Nous sommes en 1984 au Soudan et dans les camps de réfugiés où la faim et la maladie rôdent, une mère chrétienne éthiopienne prend une décision déchirante pour sauver son fils. César du meilleur scénario, une ode à la tolérance poignante et pleine d'humanité. Vendredi, France 5, 21h, on pourra revoir L'aventure, c'est l'aventure de Claude Lelouch avec Lino Ventura, Jacques Brel, Johnny Hallyday et Charles Denner. Dans le Paris des années 70, cinq truands aux petits pieds en ont tassé de jouer les seconds rôles dans le milieu. Leur rêve, passer à la vitesse supérieure, quitte à réinventer leur approche du crime. Une comédie aussi débridée que jubilatoire, pourvue de dialogues savoureux et d'une distribution irrésistible. Dimanche sur Arte à 21h, on pourra revoir Platoon d'Oliver Stone 1986, William Dafoe, Tom Berenger, Charlie Sheen, une histoire de Chris Taylor 19 ans, qui en 67 décide de s'engager dans l'armée américaine pour combattre au Vietnam. Un récit puissant qui multiplie les vérités dérangeantes, vraiment le chef-d'œuvre d'Oliver Stone. Et puis le conseiller Blu-ray, ben on reste avec Oliver Stone, car je vous conseille de revoir ou de voir, de découvrir Salvador, un film de 1986, avec James Woods, excellent, James Belushi, John Savage, l'histoire d'un journaliste et de son ami qui décide de se rendre au Salvador. À leur arrivée, découvre un pays en proie à la guerre civile et dirigé pas une dictature, c'est l'horreur. Un excellent film, hein, peu connu, hein, d'Oliver Stone, a réservé un public averti. Hein, tout de même, il y a des scènes très dures. Vous pouvez trouver ça dans un très beau coffret, 49 euros, dans ce magnifique coffret, édité par MGM. Tenez, Franck, je vous l'offre. Voilà pour le cinéma à la télévision, cette semaine.
Si je te disais que j'ai la vague impression d'effectuer un pétage de plomb au niveau de ma personne.
Funny how secrets travel on. I start to believe. If I were to bleed.
Alors, Franck Lubé, comme David Bowie va bien avec David Lynch, pas seulement parce qu'ils ont le même prénom,
non.
Mais en tout cas, là c'est Lost Highway que vous proposez dans ouais. cette galaxie grosse à voix. Là aussi, pour être perdu, on est perdu.
Ah là, on est... Oui, je sais même pas si perdu... Je sais même pas s'il faut inventer un mot
dès le début, en particulier. Quoi.
Oui, oui. Il se passe des choses, mais ébouriffantes dans ce film.
Ah, ça fait partie de ces films qui sont impossibles à résumer.
Non.
Je sais pas, du coup, c'est tellement une expérience, c'est difficile d'en parler.
C'est ça, en fait, c'est une expérience.
C'est une réelle expérience, on sait pas vraiment où on est.
Alors,
on va dire le film.
Alors, j'ai là un résumé sous les yeux, peut-être vous conviendra-t-il.
Voyons.
On suit un musicien incarné par Bill Pullman qui commence à recevoir de mystérieuses cassettes VHS de lui et de sa femme. C'est Patricia Arquette. Dans leur maison. Donc, on se demande comment on a pu filmer ces moments-là. Hein. Et il est soudainement condamné pour meurtre, après quoi il disparaît inexplicablement grâce à un homme mystère. Et il est remplacé par un jeune mécanicien menant une vie différente, mais peu à peu des éléments de son passé ressurgissent. Voilà. Enfin, même ça, je crois que c'est pas clair.
Ben, disons que oui, on pourrait dire que c'est un film de la pliure, peut-être.
Oui.
C'est-à-dire qu'on a, c'est un film qui commence, on va dire normalement. Enfin, c'est une histoire qu'on nous raconte, qui est comme n'importe quel film. Et puis voilà, il y a des éléments troublants quand même qui arrivent. Et je crois que ça doit être vraiment la moitié du film. On bascule. On bascule dans, c'est-à-dire on rentre dans un autre univers. Véritablement. Ouais. C'est-à-dire avec les mêmes acteurs, mais c'est plus les mêmes personnages.
Oui,
mais
oui, oui.
Pourtant, un peu comme Mulholland Drive, hein, il y avait ce même film.
Ouais, c'est plus énigmatique et plus surprenant et bourrifant quoi, dans Lost Highway.
Dans Lost Highway, il y a peut-être quelque chose qui est beaucoup plus expérimental en fait dans Lost Highway, parce qu'il fait véritablement, il éclate le récit. Alors que peut-être. Je sais pas, peut-être que du coup on est dans quelque chose qui est un peu plus maîtrisé quand même avec le suivant, pardon, le titre m'échappe là,
Mulholland Drive,
merci, pardon, j'arrivais pas à le remettre, avec Mulholland Drive qui est pareil, le on va dire le récit est assez labyrinthique, mais on arrive quand même à s'y retrouver,
parce que dans Lost Highway il y a confusion des personnages, parce que finalement il y a un personnage au début, Bill Pullman, et après c'est le même mais c'est un autre acteur, et donc c'est ça qui emporte le spectateur, mais que s'est-il passé vraiment? On change d'univers, on a une minute. Mais il fallait passer ça. Ben oui, des westerns, il y en a dans la galaxie Kurosawa, et pas des moindres, et des noms, John Ford, Sam Peckinpah, et Tarantino pour celui-là, puisque c'est Django Unchained. John Ford, c'est La Poursuite Infernale, et Peckinpah, La Horde Sauvage.
La Horde Sauvage.
C'est les sept mercenaires aussi, La Horde Sauvage.
Bah, c'est complètement les sept mercenaires. En fait, ce qui est assez... Pardon, je vais aller vite.
Oui, parce que vous n'avez que pas le temps. 30 secondes.
Kurosawa, il est fan de John Ford. John Ford, c'est le modèle. Donc forcément, si on parle de Kurosawa, il faut passer à John Ford. Mmh. C'est la base. Mmh. Et donc Kurosawa, il prend à John Ford, qui est le cinéaste le plus classique qui soit du cinéma hollywoodien. Donc il prend au cinéma américain, il fait... Les sept mercenaires, et Peckinpah fera la horde sauvage. Et la horde sauvage, en fait, il emprunte à Kurosawa.
Oui.
En gros, c'est comment Kurosawa est le trait d'union entre le cinéma classique américain et le nouvel Hollywood.
Ouais,
quelque part. 70, c'est ça, en fait. Voilà, pour aller vite.
Voilà, et ben, donc, c'est pour ça qu'il génial. Faut aller le voir. Ah, ouais. La poursuite.
Ah oui. La horde sauvage.
Et la poursuite infernale.
Infernal. Pas impitoyable. Ouais. C'est Arthur Penn. C'est pas les mêmes.
My Darling Clementine.
Oui, voilà. My Darling Clementine. Messieurs, vos coups de cœur sur Django.
Les coups de cœur sera Les Dimanches, Les Voyages de Teresa, It's Never Over, Jeff Buckley.
Les Dimanches, Les Voyages de Teresa, La Galaxie Kurosawa au Patty Wilson avec la Cinémathèque de Toulouse. Gagnez vos places sur cinéma@radioprésence.com. Et puis les 60 ans de l'ABC jusqu'au 15 février.
Et oui, les 60 ans de l'ABC, il ne faut pas oublier ça. À partir de demain jusqu'au 15 février, il y a plein de belles choses et plein de trucs à découvrir pour moi, ben, comme vous. Les Dimanches, Les Voyages, It's Never Over. Je rajouterai le Park Chan-wook. Allez, n'ayons peur de rien. Et surtout, La Galaxie Kurosawa. Bah
oui.
Merci beaucoup, Franck Lubé. C'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous. Merci, messieurs.
Merci à vous.
Bonne soirée.
Merci, chers voisins, Clément, et de votre bus. À bientôt. Restez fidèles à Présence. À 20h, c'est Nathalie Cardon. Salut.
La prochaine fois, on ira au cinéma.
Présence.
Tous les matins, l'évangile du jour est commenté par un prêtre de la région.
L'évangile. Un rendez-vous pour se nourrir et se ressourcer à 6h50, 7h50 et 8h50.